With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
CJMD 96.9. CJMD 96.9.
Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes.
Bonjour tout le monde, ici Denis Guy et...
Pascal Bourbonnais.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonne année.
Merci.
Hey, 2023, on va la souhaiter meilleure que la 2022. Et puis aujourd'hui, on a notre invité Marc Saint-Germain. Bonjour Marc.
Salut Denis.
Comment allez-vous?
Ah bien toi?
Oui, ça va bien. Notre invité, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin au niveau, par exemple, des ovnis. Je vais vous le présenter. Je vais vous lire un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme passé, si on peut dire, au niveau de l'ufologie. Alors, il est détenteur S-Sciences d'un bac à l'Université du Québec à Montréal. Marc Saint-Germain est un ancien militaire canadien ayant œuvré dans de nombreux secteurs d'activité. Son intérêt pour l'ufologie a commencé dans les années 1990, alors que des amis proches furent impliqués dans des rencontres rapprochées du quatrième type. Ces événements l'ont amené à se rapprocher des cercles ufologiques où il a partagé ses idées sous forme de conférences. Entre autres, il y a eu 72 conférences, justement, jusqu'à maintenant qui a été fait. Alors, il a beaucoup à dire sur le sujet. Il s'est joint à l'Association québécoise d'ufologie, où il a donné plusieurs conférences lors des soupers ufologiques de l'AQU. La quantité d'informations amassées durant la préparation de ces conférences lui ont donné suffisamment de matière pour constituer un ouvrage entier au sujet de l'implication du gouvernement américain dans la censure sur les ovnis et la présence extraterrestre. Ce livre, c'est Les gardiens du silence, qui a été traduit en anglais ou l'inverse, là, de l'anglais au français. Parallèlement à ce projet d'écriture, Marc est devenu enquêteur de terrain, puis directeur régional des Hautes-Laurentides, et s'est impliqué dans de nombreuses enquêtes dans la région. En 2014, Marc est devenu enquêteur de terrain du MUFON. Il est promu directeur provincial du MUFON Québec en août 2015. Puis au cours de son mandat, il a entre autres organisé un séminaire annuel co-traduit le manuel des enquêteurs de terrain du Mouffon en français. Il a instauré un membership provincial et a mis sur pied un journal électronique trimestriel, Le Vigilant, auquel j'étais déjà abonné. À l'automne 2014, après quelques présentations au Québec, Marc a fait une tournée en France pour présenter les gardiens du silence à plusieurs organisations ufologiques dans le pays. La réponse de la communauté ufologique française relativement au travail de Marc Saint-Germain a été plus que positive. En raison de son implication dans le développement du MUFON en France, Marc a été promu CAG international en février 2017. De 2015 à 2019, Marc a été conférencier à l'Alien Cosmic Expo à Toronto. Il a été promu directeur national du MUFON Canada en février 2019. En 2020, il a quitté ses fonctions de directeur pour se concentrer sur les enquêtes de terrain et l'écriture, ainsi que d'autres projets de recherche sur les ovnis. Il habite présentement dans les Laurentides, au nord de Montréal, avec sa conjointe Annie. Et il a écrit, finalement, comme on dit, 4 livres, dont le dernier est « Récit d'un enquêteur ufologue », qui est sorti sous Kindle en 2021. Il a fait aussi « Les gardiens du silence » en 2014, ainsi que « The Silence Keepers ». Et en novembre 2016, il a fait le livre avec coécrit, en fin de compte, avec M. Caron, « Les enfants de Sylvie P. ». Alors, il a aussi produit un film, coproduit, « Le programme spatial clandestin », en collaboration avec Jean-Charles Moyen et Jenny Solmi. Alors, t'as fait pas mal de choses, hein? Marc, c'est fastidieux, comme on dit. Il y a, à un moment donné, t'as été au MUFON Canada, mais t'as pas resté longtemps, t'aimais mieux être sur le terrain, quoi, c'est...
Ben, disons que directeur national d'un grand pays comme le Canada, c'est de l'ouvrage. Oui. Nous autres, on est bénévoles, puis quand tu passes quasiment à temps plein à faire des enquêtes, puis à gérer, puis faire l'administration, tout ça, ça devient beaucoup.
Ah oui, oui, oui. Définitivement. Je comprends très bien la situation. On sait qu'est-ce que c'est que d'être bénévole. C'est qu'en fin de compte, on paye. On n'est pas payé, puis on paye. Il y a des dépenses qui sont pas toujours remboursées. Là, fait que c'est quelque chose qui est difficile, surtout si on est à plein temps. À un moment donné, ça prend du pain et du beurre sur notre table pour manger un peu. Fait que je comprends un peu la situation. Alors, juste pour donner une idée pour les gens, là, qu'est-ce que c'est que tu fais ou que tu as fait jusqu'à maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu une idée de ce que c'est qu'il y a dans tes livres? Exemple, le récit d'un enquêteur ufologue, qu'est-ce que les gens peuvent voir dans ce livre-là? Je sais qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal d'éléments que tu as pris quasiment minute par minute que tu as parlé dans ce livre-là.
Ben, en fin de compte, quand tu écris un livre, c'est parce que tu veux avoir un livre que tu aimerais qui existe, mais qui n'existe pas.
Oui.
Pis les gardiens du silence, finalement, c'est parce que moi, je t'ai tombé sur des documents Majestic 12.
Oui.
Puis il n'y a pas de livre vraiment qui aborde le sujet tant que ça. Dans un contexte où ces documents sont réels, puis c'est pas de la désinformation.
Mm-hmm. Est-ce que c'est plusieurs... c'est parce que je sais qu'il y avait eu un livre, Majestic 12,
ouais, qui est sorti
en anglais. Oui.
Il en parlait, mais lui, il se consacrait sur certains documents spécifiques.
OK.
Il y en a bien qui laissait de côté. Il n'a pas touché. Moi, quand je suis tombé là-dessus, j'ai tout imprimé ça. Je me suis fait un binder. Je lisais ça le soir, tous les documents.
OK.
Puis à un moment donné, j'ai vu que ça faisait une histoire complète, détaillée. Puis les gardiens du silence, c'est un peu ça. Puis les gens, ils peuvent même accéder aux documents dans le livre. Ils sont toutes là, les références. Il y a toutes les références.
Ah, ça, c'est bon.
Ouais, qui peuvent aller chercher eux-mêmes puis lire les documents. C'est ça qui est intéressant. Là, présentement, je suis en train de travailler sur un autre livre qui est un petit peu semblable à ça, mais du niveau canadien.
Mm-hmm.
Parce que j'ai fait de la recherche au niveau des archives canadiennes.
Est-ce que
à l'Université d'Ottawa.
OK. Tu es allé dans les archives qui se trouvent à Gatineau, j'imagine?
À Ottawa.
À Ottawa?
Oui, l'autre bord de la rivière.
OK, parce qu'il y a, la Bibliothèque nationale qui se trouve être à Gatineau.
Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, je cherchais de quoi de spécifique, puis ils n'avaient pas aux archives nationales. Il y a un archiviste qui m'a dit, va à la librairie de l'Université d'Ottawa. Il y a un fonds d'archives spécial. Là, je suis allé là.
Mm-hmm.
Ça s'appelle le fonds d'archives Arthur Bré.
OK.
Arthur Bré, c'est un ancien ufologue canadien qui était super actif, puis à un moment donné, il tapait sur le gouvernement pour faire sortir des documents. Puis c'est comme ça que le fameux mémo de Smith, là, tu sais, le mémo de Wilbur Smith.
OK.
C'est là qu'il est sorti. C'est un mémo bien important parce qu'il raconte plein de choses sur les ovnis, sur l'implication du gouvernement canadien dans cette histoire-là, dans ces années-là, dans les années 50.
Mm-hmm. Quand on parle du gouvernement canadien, c'était sous quel... c'était l'armée du Canada ou si c'était...
Non, c'était le département des transports.
OK.
Puis à un moment donné, le gouvernement américain capotait un peu, il trippait pas trop là-dessus de voir un Canadien de commencer
à parler des
ovnis publiquement.
Ah oui, oui.
Fait que là, ils ont rejoint le département de la Défense puis ils ont dit, là, vous allez calmer ce gars-là.
Ah, sapristi.
Ah oui.
Oui.
Carrément.
Mm-hmm.
Puis là, finalement, c'est Oman Solund qui est au Conseil national de recherche. Le Conseil de recherche du département de la Défense que là, il a contacté Wilbur Smith puis il a dit, on va créer, nous autres, on va en créer un projet de recherche sur les ovnis, puis tu vas te joindre à nous autres. Dans le fond, c'était pour essayer d'avoir le contrôle là-dessus, eux autres qui ont fait ça.
Oui.
Fait qu'ils ont fait un autre projet de recherche sur les ovnis, ça s'appelle Second Story, comme deuxième histoire. Puis ils ont fait ça juste pour essayer de prendre le contrôle sur le projet d'étude sur les ovnis que Wilbur Smith avait mis sur pied. Mais comme il n'y avait pas le contrôle sur lui, puis ni qu'est-ce qu'il disait publiquement, eux autres, ils n'ont pas aimé ça. Fait qu'ils ont dit, c'est mieux si c'est l'armée qui contrôle ça.
OK.
Par le département de la Défense.
Ça, on parle de quelles années environ, ça? C'est des...
De 1950. Ben, c'est les années 50-60.
OK. Ouais. Ça commençait déjà aux États-Unis, comme ici au Canada. Ça commençait
ça
déjà...
Ça faisait plus que commencer. C'était pas mal dedans.
Ah oui?
Dans les grosses années, ça.
Oui. C'est vrai que c'était des...
Non seulement qu'il y avait des observations, mais il y avait des contacts. Il y avait eu plusieurs contacts. Parce qu'à un moment donné, ça, c'était le temps de la guerre froide, puis on était limite de se faire péter avec des bombes atomiques.
OK.
Puis là, il y a des extraterrestres qui trippaient pas trop là-dessus.
Ou d'autres civilisations qui vivent en parallèle avec nous autres.
Bon, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y en a qui sont venus, ils ont dit, là, vous êtes malades, vous autres, qu'est-ce que vous faites là?
Oui, des enfants qui jouent avec des allumettes.
C'est des grosses allumettes.
Méchantes allumettes.
Puis au début, ils sont venus voir les dirigeants du monde.
Oui.
Pour leur dire de se calmer. Puis ça n'a pas marché. Fait qu'après, ils allaient rencontrer la population directement. Mm-hmm. Dans ces années-là, c'est plein de monde qui ont eu des contacts directs. Puis il y en a beaucoup qui ont eu des contacts télépathiques. Parce qu'ils essayaient de faire changer la vision, la philosophie des gens pour devenir plus pacifiques.
Oui. Oui, c'était, comme on dit, dans les années où c'était le plus... Ça brassait le plus parce que À un moment donné.
Des fois, ça commence à ressembler à ça, c'est ainsi.
Oui, ouais. C'est ce que je pensais. Ouais. C'est ça, j'allais dire. Je pense que ça revient, ça.
Oui, il y a des gros parallèles avec ce qu'on vit présentement. Ouais. Ce qui se passait dans ces années-là. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très d'actualité, travailler sur ce livre-là présentement.
Mm-hmm. Vraiment intéressant. Puis...
Ce qui est intéressant, c'est que Wilbur Smith, c'est un des premiers ufologues à prendre en considération les messages provenant des contacts extraterrestres. Parce qu'il y a même des associations ufologiques comme le NICAP puis l'APRO, des associations américaines du temps. Ils ne prenaient pas ça en compte. Ils disaient ça, c'est tous des fous. Ah, ouais. Ils appelaient des crackpots. Ouais.
Ouais.
Fait qu'ils ne prenaient pas cette information en considération. Mais lui, Wilbur Smith, il consignait tous les messages. Puis il y en a beaucoup qui c'était avec l'utilisation des armes atomiques. Qui disait qu'il va falloir se relaxer un peu là-dessus.
D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça qu'à un certain moment, au mille de la Gauchetière, il s'est produit un événement spécial. Je sais que j'étais présent quand tu avais commencé à parler de ça avec quelqu'un d'autre, là. Il avait fait une présentation justement sur ce qui s'était passé au mille de la Gauchetière, le fameux OVNI de Montréal, si on peut dire.
Ouais. OK, c'est dans les mêmes années?
Non, c'est plus loin. C'est parce qu'il y avait un rapport avec le nucléaire, justement, là-dessus.
Okay.
Je pense qu'il s'intéressait à tout ce qui se faisait au niveau soit des études sur le nucléaire, soit des endroits où il était logé des ogives, là où ce qu'il y avait aussi des centrales au nucléaire. Je pense que ça intéressait beaucoup les extraterrestres ou les autres civilisations qui, eux autres, n'aimaient pas ce qu'ils voyaient parce qu'à un moment donné, on en a fait sauter une puis un autre, hein, souterraine, dans les airs, il y en a qui étaient vraiment dangereuses pour
surtout
la planète.
Surtout dans les années 50, il y en avait beaucoup.
Oui. Là, on jouait avec des allumettes, là, puis on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on mettait comme feu, là.
Oui.
Oui. Ça fait que je pense qu'on ouvre aussi avec cette technologie-là, nucléaire, on ouvre aussi des portails, si on pourrait dire, pour eux autres.
Bien, les portails que ça ouvre, c'est pour des entités négatives. Ça a l'air qu'il y en a une trolley qui se sont intégrées à notre planète dans les années 50 depuis ce temps-là, puis influencent les dirigeants, mais d'une façon négative.
Est-ce que vous pensez qu'ils influencent aussi le monde ordinaire aussi? Ou
oui. Plus, ouais? Par le contrôle des médias, puis de l'éducation, etc.
Donc, quand on dit qu'ils contrôlent par les médias et tout, ils sont en contact avec des gens qui sont directement impliqués dans les médias.
Comment ça fonctionne, c'est qu'ils vont contrôler l'état dirigeant des organismes.
OK.
Tu sais, ils ne peuvent pas contrôler tout le monde, mais ils vont contrôler les têtes dirigeantes.
Moi, ce que je me demande, c'est s'ils peuvent même contrôler, mais sans que tu t'en rendes compte. Là, genre,
sans que les gens s'en rendent compte?
Oui, c'est ça. Sans que la personne s'en rende compte qu'elle est contrôlée, là, tu sais, genre par mental.
Oui.
C'est intéressant. Puis
ça, il faut essayer de se recentrer le plus possible.
Ouais.
Mm-hmm. Rester solide entre, si on peut dire, nous autres mêmes, là, si on peut dire sur notre.
Se retrouver.
Se retrouver vraiment...
En tant qu'individu.
Être, comment je pourrais dire, souverain dans le sens où on se laisse pas influencer par l'extérieur. On regarde ce qui se passe, puis on dit, bon, ben écoute, ça, j'adhère
avec
pas à ça.
Avec du détachement un peu.
Oui. Ouais.
Le plus possible, en tout cas.
Oui, avec un peu d'objectivité.
Mm-hmm. C'est ce qu'on est
d'essayer de ne pas faire que ce soit nos émotions qui nous guident. Ça, c'est la pire affaire.
Oui.
Ben, faut que tu pas contrôler tes émotions, mais il faut que tu sois conscient que des fois, tes émotions, ça peut te faire aller prendre des chemins que c'est pas vraiment à ton avantage.
Exact.
Ben, c'est facile d'influencer ou de contrôler les gens par leur émotivité. C'est comme ça que tu influences les masses.
Mm-hmm.
C'est un de beaucoup qui ont compris ça.
Mais on a compris ça surtout dans les dernières années.
Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un parallèle évident avec ce qui se passait dans ces années-là. Parce que même ça, Wilbur Smith, il en parlait du contrôle de la population puis de l'influence par des entités négatives.
OK. Ouais. C'était déjà quelque chose de présent ça, dans ce à ces moments-là. Puis ça, c'était 50, ouais, lui, 60, les années 50.
Il avait compris ça parce qu'il essayait juste de dire la vérité. Puis dans le fond, il y a beaucoup de civilisations extraterrestres pacifiques. Eux autres, ils vivent dans l'abondance puis dans l'harmonie. Mm-hmm. Puis eux autres, ils venaient juste pour essayer de nous dire comment qu'on pouvait vivre notre vie autrement en tant que civilisation, sans avoir à tout le temps vivre dans la guerre, puis dans la pauvreté, puis dans la misère, tu sais.
Oui.
Dans la peur, ah ouais donc. Mm-hmm. Ouais. Mais ça, on n'entendait pas bien parler de ça, de ces civilisations pacifiques-là. Parce que c'était contrôlé par tous les services de renseignement. Ils ne voulaient même pas que ça se sache.
Oui, mais c'est parce qu'ils... Ils n'étaient pas fervents, eux, de donner des technologies qui...
Non, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait la paix, parce que le complexe militaro-industriel, leur pouvoir est basé sur la guerre. Fait que là, si c'est la paix sur la Terre, eux autres, ils n'ont plus de job.
Ouais.
Ils ne font plus d'argent, ils n'ont plus de pouvoir.
Effectivement.
Puis comme c'est un peu eux autres, au début, qui avaient le contrôle sur les ovnis, le complexe militaro-industriel... avec le MJ-12. Fait qu'ils ont dit, on va s'arranger pour pas que le monde s'intéresse à ça. Fait qu'on comprend un peu aujourd'hui le pourquoi du secret. Mm-hmm.
Puis on voit aussi qu'à quel point que tout ça commence aussi à se dévoiler aussi. Fait qu'ils ne peuvent plus cacher grand-chose.
Ça, c'est un désir de la population. Mm. Ça, j'ai tout le temps dit ça, la divulgation, ça va partir d'en bas, pas d'en haut. Mm.
Exactement.
C'est
les gens qui vont pouvoir dévoiler justement ces choses-là parce qu'ils vont avoir été mis en contact.
Ils vont pouvoir demander la vérité. Mm-hmm. Mm. Mais pour avoir la vérité, il faut commencer par être ouvert à tout ce qui va sortir.
Ouais. Effectivement.
Si les gens ils veulent avoir la vérité, ils disent « Oh non, je ne veux pas savoir », mais là, ils ne le sauront pas.
Mm-hmm. Et être prête à savoir que tout est possible aussi parce que ça a l'air... de science-fiction, que c'est pas vrai, là.
Ouais.
Des fois, les gens, quand ça commence à être un peu trop...
Ouais, c'est possible, ça, un peu
c'est comme ça, on dirait que là, ils se mettent la tête dans le sable.
T'étais pour dire, Marc?
Non, j'ai dit, les gens, ils tiltent.
Ah oui, ils tiltent.
Ouais. Ouais, quand il y a trop d'affaires.
Ouais,
une vieille expression que quand on était jeune, puis on jouait aux machines à boules.
Ah oui, oui. La machine à boules était gelée, comme on dit. Oui,
c'est ça.
Alors, moi, je dis, à ce sens-là, je dis qu'il y a des fils qui se touchent.
Pas mal pareil.
Ouais. C'est vrai que lorsque les gens ne sont pas habitués d'entendre parler de ces choses-là, puis que là, on commence à mettre un petit peu de détails, ces personnes sont plus ou moins sensibles, c'est sûr, mais il y en a certains que c'est soit la peur, d'autres c'est soit l'étonnement ou encore de la paranoïa qui peut s'installer. Fait que c'est sûr que c'est un sujet qui est un petit peu touché, mais les gens qui ont été touchés un peu par le phénomène ou qui ont été témoins de quelque chose ou que leurs parents ou leurs proches ont été témoins, ça leur donne le goût, eux autres, d'en savoir un peu plus sans trop tomber dans le, si on peut dire, dans la peur de tout ça. Il faut savoir aussi vivre puis être témoin, je pense, de tout ce que c'est qui concerne le sujet. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus sain. Dans le livre « Le gardien du silence », en fin de compte, ça raconte un petit peu ce que toi, tu as pu retrouver dans les archives du Québec ou du Canada.
Non, « Les gardiens du silence », c'est plus des documents américains.
OK.
Oui, c'est celle qui est en train de faire là en ce moment, qui va...
Moi, celui que je travaille présentement, c'est celui-là que ça va être le gouvernement canadien.
Okay.
Je ne voulais pas en parler, je voulais que ça reste un secret.
OK.
Vous n'avez rien entendu.
Vous n'avez rien entendu. fait que là, c'est ça. On a présentement une minute, mais j'aurais aimé ça. Si tu pouvais introduire un petit peu les cas, certains cas que toi, tu as investigués, si on peut dire, toi et ton groupe à l'époque. Et puis, on va se donner quelques minutes après, justement, les annonces qui s'en viennent pour être capable de, justement, de jauger un peu les différents cas que tu as pu rencontrer, puis voir peut-être les cas les plus parlants, si on peut dire. Je pense que, entre autres, la question de Sylvie P, c'est quelque chose qui est intéressant à entendre parler pour les gens. Il y en a qui n'ont peut-être pas connu ça. D'autres qui suivent beaucoup le MUFON, ben je pense que les autres vont savoir un peu de quoi on parle, là, mais c'est intéressant de peut-être faire un petit retour là-dessus. Fait que revenez-nous juste après ces quelques annonces qui s'en viennent. Alors, à tantôt.
CGMD.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Bonjour, on est de retour avec Marc Saint-Germain, toujours. Là, on était sur le point de parler un peu des enquêtes que tu as faites, en fait. Peux-tu nous en donner quelques-unes en particulier, là, les entrevues que tu as faites?
Bien, la première qui me vient à l'idée, c'est quand j'étais avec l'ACU. Okay. C'était une observation devenue triangulaire dans le coin du lac supérieur. Ça, c'était quelque chose parce que tu avais deux témoins. Puis ils ont vu ça de très près. Ils ont vu ça comme l'autre bord de la rue chez eux. C'était gros, une affaire de 300 pieds de long.
Mmh. Wow!
Puis ça passait tranquillement, puis ça faisait pas de bruit. D'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, on a fait une entrevue avec les témoins.
Ah, OK.
Puis, il y avait un petit montage, les gars de la CU, ils avaient fait de quoi de pas pire dans ce moment-là.
Mais quand tu parles de YouTube, c'est sur le MUFON?
Non, c'était avec l'ACU dans ce temps-là.
OK.
Parce qu'avant, j'étais directeur régional des Laurentides pour l'Association québécoise d'ufologie. Puis à un moment donné, j'ai quitté. C'est après ça que je suis rentré avec le MUFON.
OK.
Parce que je voulais avoir quelque chose pour les enquêteurs, comme un manuel de base, puis un code d'éthique, puis tout ça. Mm-hmm. Chose qu'on n'avait pas à l'ACU. OK. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à parler de ça, il y a un de mes collègues qui a dit « Hey, c'est lui qui me parlait du MUFON. » Il dit « Le MUFON, c'est exactement ça qu'ils font. Mm. » Puis là, quand j'ai commencé à m'informer là-dessus, là, c'est apparaît comme... Tu sais, quand on dit « ça fit comme un gant », toute leur façon de marcher, c'était exactement ça que je voulais. Okay. Fait que tout ça a fité bien avec le MUFON. Comme ça, clac.
OK. Fait que là, quand tu es allé enquêter sur le gros triangle, est-ce qu'ils ont vu autre chose que le triangle? S'est-tu passé quelque chose d'autre?
Déjà, l'observation, c'était pas mal quelque chose parce que c'était des gens qui, normalement, ne croyaient pas à ça.
Okay.
Ils ont pogné de quoi?
Ah ouais. C'était-tu longtemps? Ça a-tu été là longtemps?
Ça a pris quelques minutes. Ça a passé... La dame sortait, c'était sa galerie, je pense, c'était pour sortir des chats, je ne sais plus trop quoi. Puis là, elle a vu ça. Mmh. Au-dessus de la maison de son voisin en face.
Oui.
Ça passait tranquillement, pas de bruit.
L'estimation de la grandeur de l'OVNI, c'est venu comment? C'est la dame qui a fait une appréciation?
Ben, avec la dimension de la maison puis le terrain en face.
OK.
C'est son conjoint aussi qui... Les deux m'ont fait un croquis.
OK. C'est à partir de leur témoignage, justement, puis là où ils ont pu voir l'OVNI, qu'ils ont pu déterminer que c'est à peu près 300 pieds.
Ouais.
C'est énorme, hein? C'est grand, ce 300 pieds, là.
Quand tu te rends compte, est-ce correct si je te tutoie, premièrement?
Oh, ben oui.
OK. Oui, c'est une façon, je vais partir du tu, puis je vais aller au vous après. Puis alors. fait que c'est ça, c'est quand tu es allé, est-ce que. Comment les gens réagissent à ça? Est-ce qu'ils sont en panique? Est-ce qu'ils sont émerveillés? Ou comment que les gens vivent ce moment-là?
Ça dépend des gens. Je te dirais que la dame, elle était pas mal virée à l'envers. Mm-hmm. Elle était bouleversée. Le gars, lui, tu sais, c'était comme voir, mais tu sais, pas plus que ça.
OK, OK.
Fait que c'est ça, les gens prennent les choses différemment pour un ou pour l'autre.
Des fois, ça change la vie avec quelqu'un, puis t'as aussi.
Ah, c'est certain. Ça change tout ton paradigme de pensée au complet.
Ouais, ouais.
À ton avis, est-ce que ça serait quelque chose qui était humain ou d'ailleurs?
Mais je te dirais que les ovnis triangulaires, j'ai remarqué avec le temps que ça avait rapport avec les enlèvements aussi.
OK.
OK, c'est souvent les enlèvements, les vaisseaux sont triangulaires.
Mais peut-être pas souvent, mais ça arrive.
OK, OK. Mm-hmm. Donc, ça ne sera peut-être pas des positifs. Là.
Justement, dans le cas des enfants de Sylvie P., à un moment donné, on fait une régression, puis c'est un enlèvement. Puis quand elle sort de sa maison par la fenêtre, tu sais, parce que quand il y a des cas d'enlèvement, tu vois ça. Les gens, ils se voient sortir par les murs, par les fenêtres, par les portes, à travers la matière. On dirait que la matière n'a plus de solidité dans ce temps-là.
Oh, ouais.
Puis là, elle voit ça. Elle voit ça, le grand triangle, elle s'en va là-dedans.
Mm-hmm. Est-ce qu'elle a vu les détails, est encore avec la mémoire de ce qui était à l'intérieur?
Ben ça, c'est dans le livre.
Oui. Fait qu'elle donne...
En fait, je veux vendre le livre, mais c'est juste parce que c'est beaucoup de détails quand même.
Oui, oui, oui. Mais elle a donné des détails dans ce livre-là. On a trouvé des détails.
C'est pour ça que ça faisait un gros cas, cette histoire-là.
Oui.
Mm-hmm. Mais à un moment donné, on a été loin avec Pierre puis Sylvie là-dedans.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'elle aussi, à un moment donné, a voulu prendre du recul de tout ça parce que c'est une grosse histoire quand même.
Oui.
Puis on respecte ça.
Après d'avoir divulgué, est-ce qu'elle a trouvé que ça a été bénéfique pour elle après d'en avoir parlé ou ça sentait-tu comme si c'était libéré d'un fardeau ou ça y a mis encore plus de...
Ben, des fois, ça fait ça. Ouais. Des fois, les gens... Après n'avoir parlé de ça, je me sens bien comme la dame Catherine F. dans mon dernier livre. Elle a vécu des choses semblables à Sylvie. Mm-hmm. Puis à un moment donné, tu sais, on a fait des hypnoses, puis tout ça. Puis après, elle dit ça m'a fait du bien. Parce qu'elle, ce qui était important, c'est qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui est arrivé. C'est sûr que le monde va savoir s'ils sont fous ou pas. Ben, nous autres, on n'est pas des psychologues, tu sais. On n'est pas là pour leur dire ça. Des fois, les gens cherchent des confirmations de ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vécu.
Mm-hmm. Et surtout, des fois, ils ont comme des périodes de manque aussi. Fait que ça
doit être assez
troublant. C'est ça, du temps manquant, ça doit être assez traumatisant pour la personne. Fait que tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là.
Ben, c'est sûr que tu te poses tout le temps la question qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Dernièrement, j'ai rencontré un témoin de l'OVNI de la place Bonaventure. Puis c'était ça aussi.
Mm-hmm. Oui, j'en avais déjà entendu parler de ça, qu'il y avait eu beaucoup de monde qui avait eu un temps manquant. Là,
C'est ça. Mm-hmm. Puis lui, à un moment donné, ça ne tentait plus d'en parler. Puis là, je l'ai rencontré, il m'a recontacté. Mm-hmm. Là, j'ai fait une entrevue avec. Pour ça qu'éventuellement, comme je disais à Denis, je vais peut-être faire une série d'émissions. Parce que j'ai du stock, j'ai des entrevues, j'ai du stock d'affaires. Puis là, à un moment donné, moi, mon but là-dedans, c'est de partager l'information le plus possible.
Oui.
Mais avec le temps que j'ai.
Parce que c'est sûr que plus que les gens vont en parler, plus qu'on va en voir, plus qu'il y a d'autres personnes vont sortir de leur cachette.
Oui.
Ils vont vouloir se libérer de tout ça puis dire, oh, regarde, je ne suis pas tout seul aussi qui vit ça. Là, c'est...
Exactement, ça, c'est vrai. Souvent, ça fait ça, puis c'était un début de faire une série d'émissions. Puis ça, on l'a vu pendant qu'on faisait les émissions. Après ça, les gens nous contactaient. C'est pas juste. C'est les gens, ils voient ton ouverture d'esprit. Ils voient comment tu abordes le sujet. C'est sûr que si tu es là, tu en parles, puis tu ris de ça, puis tu discrédites ça ou tu ridiculises ça, ils vont pas t'approcher. C'est ça que j'ai tout le temps voulu, mettre les gens en confiance pour montrer que, tu sais, on a une ouverture.
Donc, il y avait d'autres, dans d'autres livres, tu parlais plus, tu n'as pas parlé juste de Sylvie P, tu as parlé de d'autres cas. Ouais.
Mais dans mon dernier, c'est ça, c'est plusieurs histoires, plusieurs témoignages.
Là, on parle du récit d'un enquêteur ufologique.
Ouais, c'est ça.
OK, ça, c'est le livre qui est sorti en 2021. Ça, ouais. C'est à voir. Autrement dit, c'est de pouvoir le commander. Il est sur Kindle seulement ou bien s'il y a un imprimé?
Non, c'est sur Amazon.
Oui. Okay. Puis Amazon, ils l'ont-tu en format livre?
Papier, oui.
En format papier, ah, c'est parfait.
Ben oui.
OK. Mmh. Parfait. Parce que c'est plus intéressant d'avoir le livre en main là, que... Moi, en tout cas, pour moi, là,
personnellement. Que sur l'ordinateur. Ça, moi, je suis pas capable. Ça, je décroche mes rêves. Moi, je suis trop dans l'ancienne mode. Là. Je vais de la misère avec la technologie.
Aujourd'hui, justement, la technologie, on parle justement chacun de chez soi parce qu'on on avait des difficultés de se rencontrer. Dans le cas de Pascal, ses enfants, il y en avait un aujourd'hui qui était malade en plus.
Ah, il est allé à l'école, là, ouais. Nez qui coule, mais l'année passée, j'ai eu vraiment peur. Là, je me suis mis à tousser, comme elle, pouf, plus rien.
Bon.
Je suis comme, oh. Il va dormir. Fait qu'il a réussi à dormir, puis il s'est envoyé à l'école le matin. Il avait l'air à bien filer, là.
Ouais,
là, j'étais comme, hey, non, là, s'il vous plaît. J'en ai deux autres, des plus vieilles, adolescentes, ils font pas de bruit dans la maison, là, on les entend pas partout, il y a eu un meeting avant, là, tu sais. Je dis, là, on fait pas de bruit, là. Puis quand vous allez voir ma mère tomber dans la cuisine, là, OK, on a le temps de bouger. Fait que, mais les autres sont plus vieilles, là. Fait que,
Puis en plus, ben toi, Marc, t'es à la Minerve, c'est quoi, à peu près 2 heures de chez nous ici, là, fait que ça fait loin un petit peu, hein?
3 heures de Saint-Jean. Ouais. Je sais, mon père est là, fait que...
Ouais.
Ça 3 heures,
2 heures et demie à peu près. Ouais, c'est quand même... Ouais.
Ben, c'est parce que ces gens, tu vas pas là, il y a toujours du trafic, là.
Mm-hmm.
C'est toujours du trafic, là. Quand je vais chez mon père, moi, c'est long et pénible.
Ouais. Pour revenir à Marc, toi, tu avais des enquêtes qui étaient vraiment intéressantes. C'est quoi les autres qui te viennent comme ça à la mémoire là, de ce que tu as enquêté et que tu as trouvé comme intéressant? Là?
Mais dernièrement, c'est les cas qui m'ont parvenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici à la Minerve, dans mon entourage? Ça m'a fait réaliser que le phénomène, c'était vraiment plus étendu que... c'était pas localisé à des endroits spécifiques. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, tel endroit, il y a plus d'observations.
Mm-hmm. »
Ça, personnellement, c'est pas ça que j'observe.
Oui, mais surtout dans les Laurentides, hein, il y en a plusieurs qui parlent justement de choses qui se passent justement dans les Laurentides. Puis je dis les Laurentides, mais c'est large là, comme terrain, là, si on peut dire. C'est vraiment au nord de Laval, aller jusque... Jusqu'à Gatineau, là.
Mais fait. Dans la Minerve, il y a toujours une énergie assez spéciale, là, moi, je trouve, là. Tu sais, quand moi, je vais chez mon père, là, il se passe tout le temps des affaires vraiment bizarres, là. C'est quelque chose. On peut pas...
C'est au niveau énergétique. Au niveau
énergétique, là. Les oiseaux sont bizarres. Tout le matin, j'en revenais pas. Il y avait un hibou qui arrêtait pas de regarder mon père. Là, j'étais comme, il dit, il bouge pas parce qu'elle regarde. Puis là, il me le montre. Puis tout. Puis il était là tout le temps. Il sortait. Puis il avait pas peur. Puis tout. Là, mon père, il commençait à avoir peur, par exemple. Il dit, il me regarde bizarre, là. Fait que, mais c'était ça. Là, une boule d'énergie, grosse boule d'énergie que son ex-blonde avait vue. Puis, à un moment donné, mon père, dans sa chambre, la lumière a comme allumé. C'est comme si quelqu'un arrivait avec un gros spot directement.
Tu dis un hibou?
Un hibou, oui.
Ah, ouais.
Ah, oui. Ben, hibou, c'est blanche, là. Comment ça s'appelle?
Un enfant?
Un enfant, oui.
OK.
Oui. Puis, il était vraiment. Il était bizarre dans son comportement, là, tu sais.
Parce que des fois, je ne veux pas se faire peur avec ça.
Oui, je sais.
Mais il y a des histoires d'image écran.
Ah, oui. Ils veulent pas qu'on les voit sur leur vrai jour. Fait que
c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que mon père se sentait pas bien. Tu sais, okay. Non. Puis au début, il disait, penses-tu que c'est parce que ma mère est décédée? Il pense que c'est maman qui est revenue dans les bouches. Non. Là, j'ai dit non, c'est autre chose. Mais je ne vais pas y faire trop peur. Mais il va nous écouter. Là, fait que là, il va y commencer, il va me retéléphoner après. Comment ça, tu ne me l'avais pas dit? Mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est Anna Minerve est vraiment une énergie spéciale. Là. Quand il y a une lumière qui allume dans ta chambre en plein milieu de la nuit, puis ça vient tout clair, là, puis oups, ça menait, ça s'éteint, puis qu'il était dans le fin fond du bois. Tu te poses la question, là, ça, il n'y a pas de rue qui passe à côté de mon père. Lui, mon père, c'est vraiment comme plus creux. Là, il faut qu'il descende pour arriver chez eux. Là. Fait que, non, il y avait quelque chose de spécial.
Mais là, Pascal, là, tu parles de quelque chose de ton père qui a vécu, mais Marc a vécu la même affaire aussi, là, de la lumière qui était spéciale dans... qui rentrait par la fenêtre, qui éclairait la chambre à 3 h du matin, 3 h, 3 h 30 du matin. Je pense que c'est quelque chose que tu pourrais raconter, ça aussi, Marc, ce qui est arrivé. La première fois, je pense que tu n'avais pas tenu compte de ça trop, mais la deuxième fois avec Annie, je pense que tu avais eu...
Non.
Tu te rappelles pas de ça?
Tu te trompes peut-être de personne, Denis.
Non.
Parce que c'est un de mes amis.
Ah, c'est un de tes amis.
Quelque chose, ouais.
Okay.
C'était pas moi.
OK, c'était-tu chez vous ou...
Non.
Non, OK.
C'était des Laurentides, mais c'était pas moi. C'était okay. Pas chez moi.
Encore une fois, les Laurentides. Je pense qu'il y a quelque chose là, hein? Fait que, as-tu d'autres, justement, témoignages dans le coin des Laurentides là, qui est intéressant aussi? Au niveau, par exemple, des ovnis ou de rencontres ou, tu sais, des choses comme ça, là?
Bien, il y en a eu plusieurs, comme je te disais, dans le coin ici.
Mm-hmm.
Puis à un moment donné, les parallèles que je pouvais faire, c'était au niveau des années puis des types d'observation. Parce que, tu sais, t'as premier, deuxième, troisième, quatrième type.
Oui. Quatrième type, c'est quoi? C'est télépathique?
C'est l'enlèvement.
L'enlèvement lui-même, ouais. Okay.
Et qu'est-ce qu'il y a eu dans ton bout? Y a-tu eu les premiers, deuxième, troisième?
Oui, ils ont pas mal tout eu.
Ah oui? OK.
Ouais.
Ah, mon père, il va commencer à avoir la peur. Il va avoir la chienne. Il va dire ouf.
Les quatrièmes types, il y en a beaucoup eu dans les années 90.
Mm.
Puis à un moment donné, j'ai rencontré Randy Kramer à Toronto. Puis là, on a fait une entrevue. Puis là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? Il dit, il avait besoin de beaucoup de clones. Fait qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements, tu sais. Dans ce temps-là.
OK.
Fait que ça fitait avec mes observations.
Quand on dit qu'il y avait beaucoup besoin de clones, qu'est-ce que c'est les clones qui servaient à quoi, à qui, comment?
Des armées de clones.
OK.
Pour combattre.
Ah oui.
Oui.
Fait qu'ils venaient chercher des gens, déjà quelque chose de spécifique, puis qui pourraient être capables de reproduire un peu le même genre.
Non, mais tu sais, comme quand ils font des enlèvements chez des femmes. Des fois, ils vont les inséminer.
OK.
Ils vont mettre des hybrides dedans. Ils vont mettre de quoi de bien spécifique avec ce qu'ils veulent. Quand ils font ça, après ça, ils viennent chercher le fœtus après 10-12 semaines. Puis là, ils continuent de le faire grandir dans des cubes, des incubateurs.
Artificiels?
Ouais.
OK. Donc, ils partent pas de zéro dans un incubateur. Il faut qu'ils passent par une femme.
C'est ça.
OK.
Puis, il y en avait tellement au Québec dans les années 90 que l'Université Concordia a fait un projet d'étude sur les enlèvements parce qu'il y en avait tellement. Puis là, ils pensaient que c'était un phénomène psychologique, le monde. Ils inventaient ça ou je sais pas quoi. Puis là, moi, j'ai discuté avec... un de ceux qui était en charge de ce projet d'études-là de l'Université Concordia, puis à un moment donné... À un moment donné, il était pas vraiment à l'aise d'en parler.
OK.
Fait qu'il a fallu que je pousse.
OK. Ouais.
Puis là, me référer à quelqu'un d'Ottawa, un autre. Puis le gars, il avait écrit un mémoire de maîtrise là-dessus, sur les enlèvements. Finalement, son mémoire de maîtrise, c'était juste pour dire qu'il fallait pas utiliser l'hypnose, c'était pas une bonne affaire pour les cas d'enlèvement. That's it. Dans le fond, ils ont utilisé ça pour amener ça vers un cul-de-sac Mm-hmm. Je sais pas si tu comprends, ils font tout le temps ça.
Ouais.
Quand ils veulent plus en parler, ils trouvent une façon d'étouffer ça. Mm.
Ou ils ridiculisent l'hypnose ou ils font des choses comme ça.
Ouais. Puis je connais des gens qui ont participé à cette étude-là. Un autre cas que je dois te parler, Madame Boucher.
OK.
Elle avait vécu un enlèvement dans les années 70.
Mm-hmm. Dans les années 70, c'était aussi quelque chose vers la fin des années 70. Il y avait eu beaucoup d'observations aussi à cette époque-là.
Oh, il y a eu plusieurs vagues d'observations.
Puis Mme Boucher, elle, c'était quoi exactement?
Bien, elle, c'était pas pour les programmes de clonage, etc. C'était juste passé à donner de même, je pense. Parce que c'était des autres qui étaient comme tout en lumière de la façon qu'elle les voyait. Fait que c'est pas les gris typiques puis les grands gris, etc.
OK.
C'était plus positif.
C'était plus neutre, mettons.
OK, OK. Puis c'était pourquoi que ça a fait enlever? Est-ce que c'était...
Mais parce que ça a donné qu'il était là.
Ah, OK.
Ouais.
Des fois, c'est difficile à trouver la raison.
Oui.
Même si c'est l'hypnose.
Puis est-ce que tu penses, moi j'ai déjà entendu parler de ça, est-ce que tu penses que des fois c'est quelque chose qu'on choisit avant l'incarnation, genre? J'ai déjà entendu parler.
Ça a l'air que nos vies au complet tu choisis.
Oui. Ça serait comme un deal qu'on se donnerait. C'est ça. C'est comme un deal qu'on aurait eu, mettons, les personnes qui vivent ça, qui avec eux autres, pour que quand ils s'incarnent, ils vivent ça, ce moment-là.
Mais il y a toujours une histoire de karma dans la vie.
Oui.
C'est sûr que si on veut évoluer spirituellement, on doit régler nos karmas. Puis ça, c'est au niveau individuel, familial et de civilisation. Il y a des karmas de civilisation. Présentement, on est là-dedans.
Mm-hmm.
On est dans un karma de civilisation. Ça remonte à au moins 10-12 000 ans.
Mais
tous ceux qui sont incarnés présentement, on vient en tant que civilisation vivre quelque chose collectivement pour faire élever notre niveau spirituel d'une coche.
Oui, notre conscience. Puis est-ce que tu penses que c'est comme si notre civilisation en ce moment vivait qu'est-ce que ça s'est passé dans le temps de l'Atlantide ou des choses comme ça? C'est comme,
pas
si,
mal
là,
ça, ouais.
C'est comme si là, c'était, bon, ben OK, là, ils vont-tu faire les mêmes erreurs ou ils vont passer à un autre stade? Moi, c'est ce que
je veux dire. Mais ça, c'est à nous autres de décider.
C'est ça.
C'est chaque individu.
C'est ça. On est comme en test, c'est ça que j'ai l'impression. T'en penses-tu?
Ben, c'est un peu plus qu'un gros test, un méchant test.
Ouais.
Au début, tu sais qu'on a des épreuves, tu sais, comme n'importe quel test, c'est des épreuves. Fait qu'on est dans un temps d'épreuves.
Mm-hmm.
C'est ça qui va faire qu'on va devenir tous meilleurs, puis à un moment donné, on va pas être capable de regarder ça en riant par après. Pis on va être bien content d'être passé à travers de ça.
Mm. Ouais. En fin de compte, c'est là où on va apprendre justement à être solide avec soi-même, puis d'avoir une interaction avec les autres, mais qu'on soit quand même capable de choisir, être autonome, puis accepter ou pas accepter ce qu'on nous propose, en fait.
Parce que ça, la réalité extraterrestre, c'est comme la prochaine étape
mm-hmm.
de notre évolution. Pardon?
Dans la divulgation que tu parles? Ou
Non, là, ça va être plus au niveau de faire partie d'une grande famille galactique
mm-hmm.
en tant que civilisation. Mm. Puis ça, dans les années 60, Kennedy, c'est ça qu'il avait essayé de faire. C'est pas pour rien qu'il l'a assassiné.
Mm-hmm.
Ouais, parce qu'il dérogeait, en fin de compte, de ce que les êtres qui veulent pas nécessairement notre bien.
Il dérogeait, mais pas à peu près.
Oui, ouais, c'est ça. Là, lui, il est un peu, je vais revenir à quelque chose de plus sensé, puis c'est là où il y avait une bataille entre les sociétés secrètes, si on peut dire.
Oui, c'est ça.
La fameuse...
Fait que c'est certain qu'il y a au moins deux clans là-dedans, comme tu dis.
Oui.
Ceux qui sont pour, puis ceux qui sont contre.
C'est ça, les anti-humains, puis les autres.
C'est un petit 10 minutes, je peux revenir sur l'histoire de Kennedy.
Oui, ben en fait, ça va être tout de suite après notre retour, parce que On a toujours à peu près 24 minutes, entre 24 et 25 minutes. Puis après ça, on va revenir là-dessus. Tu disais sur Kennedy, en fait. Là,
ouais.
Tu, OK, un petit 10 minutes là-dessus. Ben, c'est parfait. Ça va être, on va écouter ça tout de suite après notre nos commanditaires qui vont suivre dans 30 secondes exactement. Fait que d'ici là, ben, en tout cas, on s'est souhaité quand même une bonne année, mais je le souhaite aussi quand même à nos auditeurs. Parce que on souhaite que justement que ça aille mieux que ce que c'est que ça a été en 2022 jusqu'à maintenant. Là, mettons que ça a brassé un peu, 2021-2022. Fait qu'on souhaite quand même une meilleure année là, en 2023, puis qu'on soit justement autonome. Qu'on soit capable de bien vivre sans être obligé de tout accepter, qu'est-ce que c'est qui s'en vient. Alors, revenez-nous tout de suite après la pause. À tantôt.
Ôtez-vous de l'or. Ôtez-vous de l'or. Swag shit.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
CJMD 96.9
CJMD, c'est la station, pas pour les doux.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Bonjour tout le monde, nous sommes de retour à l'émission. On est toujours avec Marc Saint-Germain et on s'était laissé justement sur un sujet que Marc voulait nous parler. Ben Marc, c'était concernant justement le président Kennedy à l'époque. Tu avais quelque chose à nous parler sur Kennedy. Alors, tu pourrais-tu nous parler là-dessus?
Ben oui.
Oui.
Mais c'est ça, c'est en faisant des recherches sur mon livre « Les gardiens du silence », je suis tombé sur des documents.
OK.
En lien avec Kennedy.
Oui.
C'était vraiment intéressant. Fait que ça t'amène à avoir une autre perspective de qu'est-ce qui se passait dans ces années-là.
D'accord.
En fait, lui, il s'était fait briefer par Eisenhower, par le président Eysenhower, avant de devenir président Kennedy.
OK.
Puis Eisenhower, il était pas mal au courant de ce qui se passait au niveau des ovnis puis tout ça. Parce que lui, il était général 5 étoiles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a des documents qu'on voit son nom dedans, Eisenhower, des documents liés aux ovnis. Mm-hmm. Fait que lui-ci, il était pas mal au courant. Tellement qu'à un moment donné, il avait menacé la CIA d'aller à la zone 51 avec l'armée. Parce que la CIA, il cachait tout, puis il était pas capable d'avoir d'informations.
Mm-hmm.
Là, à un moment donné, ils ont fait un briefing au président, c'est un document que Stanton Friedman y étudiait beaucoup.
Oui, mais c'était
le Eisenhower Briefing document, comment?
C'était tout caviardé, son document.
Non, le Eisenhower Briefing document, c'était pas caviardé, c'est juste que il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dedans selon lui. Eisenhower dit là, vous me cachez des choses, puis moi je veux savoir c'est quoi qui se passe.
Mm-hmm.
Il savait, c'est pour ça que dans son discours d'adieu, Eisenhower il a dit le complexe militaro-industriel, ils sont en train de prendre le contrôle des institutions démocratiques, il va falloir les watcher.
Mm.
Lui, il avait tout vu ça. C'est lui qui avait créé la NASA, Eisenhower. Parce qu'il savait qu'il y avait des programmes spatiaux militaires qui étaient en train de se faire mettre sur pied. Puis il dit, comment ça que la population civile n'a pas de programme spatial? Parce que les autres, les militaires cachaient tout. Puis là, il dit, on va créer la NASA comme ça. Il va y avoir un programme spatial civil, puis les gens vont être au courant de ce qui se passe dans l'espace.
Mm-hmm.
Fait que quand il y a ceux qui s'en allaient, puis que puis Kennedy prendrait sa place, ben là, il a briefé Kennedy.
OK.
Puis la première chose qu'a faite Kennedy quand il est arrivé au pouvoir, il a envoyé un mémo au directeur de la CIA, parce qu'il savait que c'était la CIA qui gérait ça. Eisenhower, il avait dit.
Mm-hmm.
Puis il a demandé à Alan Dulles, qui était le directeur de la CIA à l'époque, il a dit, là, tu vas tout me sortir, qu'est-ce que t'as ces ovnis? Puis Dulles, là, il a répondu, il dit, selon la loi de l'énergie de la commission atomique, il dit, je peux pas rien donner là-dessus.
OK.
Ça, c'est tous des mémos qui existent. Mm-hmm. Là, Kennedy était pas vraiment content. Puis pas longtemps après, on voit que Dulles démissionne de la CIA. Puis les historiens, ils disent que c'est à cause du fiasco de la baie des cochons, tu sais, la tentative ratée de la CIA d'envahir Cuba.
OK, oui.
Fait que les historiens disent que c'est à cause de ça qu'il a démissionné. Mais en fin de compte, quand tu regardes les dates, c'est probablement parce qu'il n'a pas donné d'informations à Kennedy sur les ovnis.
Puis Kennedy l'a mis dehors.
Kennedy, il a montré la porte.
Okay.
Alan Dulles.
Mm-hmm.
Puis pas longtemps après, il y a un nouveau directeur de la CIA qui s'appelle John McCoon. Puis là, tout de suite après que lui il rentre en fonction, il y a un autre mémo qui existe qui s'appelle l'autorité du directeur de la CIA déclarée. Puis là-dedans, ce que ça dit, c'est que le directeur de la CIA, c'est le directeur de tout le renseignement civil et militaire. Puis lui, il doit se rapporter au président des États-Unis. Autrement dit, quand je te pose une question, tu nous réponds. C'est ça que ça voulait dire.
Mm-hmm.
L'histoire, c'est clair.
Ils le font-tu réellement, par exemple?
Ouais, ben là, lui, il pensait qu'il était pour faire ça de même.
Ouais.
Puis en fin de compte, il y a trois autres documents là-dedans, dans cette histoire-là, qui datent de 10 jours avant l'assassinat de Kennedy. Il y en a un que c'est encore une demande au directeur de la CIA qui sort toutes les informations qu'il y a sur les ovnis au nouveau directeur, tu sais. Puis il y en a un autre, c'est un mémo au directeur de la NASA pour l'avertir comme quoi que de se préparer de faire un programme spatial conjoint avec la Russie pour aller sur la Lune. Avec la Russie pour aller sur la Lune.
Mm-hmm. Ben à l'époque, c'était encore la guerre froide.
Oh, c'était la guerre très froide. C'était la guerre glaciale.
Oui.
Ça avait passé à ça de la Troisième Guerre mondiale dans ce temps-là. C'était très tendu.
Mm-hmm.
Puis il y a un autre document, c'était une retranscription de la NSA. Il avait mis Kennedy sous écoute. Puis à un moment donné, il est là, le Kennedy, il y avait une ligne directe justement à cause des tensions, à cause de la guerre froide. Il y avait une ligne directe avec le président russe, Khrouchtchev, à l'époque.
Mm-hmm.
Puis là, ils se parlent les deux. Puis là, Kennedy dit, là, il faudrait qu'on se rencontre puis qu'on parle de ça, cette histoire devenue là. Il dit, avant qu'on se tire des bombes atomiques à cause des méprises.
Mm-hmm.
Puis il dit, je viens de demander à mon directeur de la CIA de tout sortir l'information là-dessus. Puis il dit, ça serait pas pire si tu pouvais faire la même chose de ton côté avec le KGB. Mais Khrouchtchev, ça faisait longtemps qu'il était président. Puis il savait comment que le KGB était puissant, comme la CIA.
Ouais.
Il dit, je vais essayer fort, mais je pense pas que ça va marcher.
Ouais, c'est devenu gros ces deux affaires-là. Hein. Comme on dit, ils ont pris pas mal de place. C'est ouais. pas mal eux autres qui contrôlent, si on peut dire, les civils ouais, et puis même le président.
Là. Le 22 novembre, Kennedy s'est fait assassiner à Dallas, au Texas. Dix jours après la date de ces documents-là.
Ouais. Quand j'étais revenu de l'école, ils passaient ça à la télévision, justement, l'assassinat de Kennedy. Je me rappelle, j'étais en troisième année à cette époque-là.
Mais lui, Kennedy, ce qu'il voulait vraiment, c'était prendre contact avec les extraterrestres pacifiques pour ouvrir notre civilisation à d'autres civilisations pacifiques. Mm-hmm. C'est pour ça que les autres, ils veulent pas ça. Ils veulent continuer à contrôler la civilisation par la peur puis toutes sortes d'affaires, par les guerres. Parce que si c'est la paix, puis l'abondance, puis l'harmonie, il y a plein d'individus au pouvoir qui vont tous perdre leur pouvoir. C'est ça le problème.
Mm-hmm.
Puis Kennedy, il avait compris ça. Il disait, on va se mettre chummy-chummy avec du bon monde, tu vas voir.
Il était bien intentionné, lui.
Oui, totalement.
On a perdu vraiment un bon président à cette époque-là. Et tu voulais nous parler aussi d'un cas où quelqu'un était allé à la guerre, deuxième guerre mondiale.
Et mais ça, c'est quelqu'un qui m'a rencontré la semaine passée, justement ici à la Minerve, qu'elle a vu des choses au lac Chapleau, pas tellement loin d'ici. Puis elle disait que son père, je sais pas trop, avait été à la deuxième guerre mondiale, puis il avait vu des ovnis, puis tout ça, là, dans ce temps-là. Mais j'ai dit, regarde tout ça pour plus tard, on va faire une entrevue.
Okay. Fait
qu'éventuellement, je vois bien en parler de cette histoire-là. Ça va être intéressant, c'est certain.
Mm-hmm. Ouais.
Fait que c'est un autre cas d'observation de la Minerve qui se rajoute à la longue liste que j'ai déjà.
Wow. Intéressant.
Mm-hmm. Oui.
As-tu, toi, des questions spéciales, Pascal?
Ben, je l'aurais dit, hein, c'est sûr. Non, mais pour un rapport avec ça, non. J'étais comme dans ma bulle, là, en train d'imaginer ce qu'il parlait, puis tout ça, puis essayer de mettre des images. Fait que j'étais. Non, c'est ça. C'est sûr que quand on voit à quel point que les gouvernements savent tout ça, puis là, qu'on voit que depuis. Moi, je trouve qu'il y a comme eu un. Comment je faisais ça? Tu sais, quand on regarde les divulgations et tout ça, ce qui se passe, on voit qu'il se passait beaucoup de choses avant, mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins actif. Il en parle moins. Je veux dire, les apparitions, là, souvent, là, je ne sais pas si je me trompe, Marc, là, mais est-ce qu'il y en a moins qu'avant, les apparitions, ou c'est juste que le monde n'en parle pas?
Ben, c'est certain que les gens ne sont pas portés à en parler naturellement à cause d'aspects de tabou qui est autour de toute cette histoire-là.
Mm-hmm.
Ça, c'est le conditionnement social qui a fait ça.
Mm. Puis, malheureusement...
Je vais raconter une petite anecdote par rapport à ça, si tu veux.
Oui. Oui.
À un moment donné, je donne une conférence sur les ovnis à Rivière-Rouge, mais dans ce temps-là, ça s'appelait l'Annonciation.
Mm-hmm.
Ça avait passé dans le journal comme quoi je donne une conférence-là. Ça donnait que en dessous de la salle où on donnait la conférence, il y avait un party de motards.
Oh!
La musique était forte en plus.
Mm-hmm.
Puis à un moment donné, après la conférence, pendant que je sors mes affaires, tu sais, mon projecteur, mon ordinateur, etc., je vois quelqu'un assis en bas à la terrasse. Un des motards, mais c'est un ancien militaire que j'ai été dans l'armée avec. Là, je le reconnais tout de suite parce que j'ai une bonne mémoire des visages quand même. Puis on commence à jaser. Il dit, ouais, t'es-tu avec sa gang de fous-là? En voulant dire ça, la conférence sur les ovnis. Je dis, ben oui, c'est moi qui donne la conférence.
Ouais. Ça part bien.
Non, mais je suis habitué au jugement des gens là-dessus.
Ouais.
Ça, si t'es pas capable de justement... de gérer ce genre de situation-là, tu ne vas-t'en pas dans l'ufologie.
Mm-hmm.
Ben, c'est juste de te ridiculiser, etc. Puis le jugement...
Même dans la spiritualité, c'est pareil.
Ah ouais, ben oui.
Il y a des gens qui sont pas spirituels, des gens de la famille, ils te barrent une barre dessus parce que tu es trop différente des autres.
Fait que toi,
tu penses pas pareil.
Fait que toi, tu es habitué à ça, ce genre de situation-là, vu que tu étais justement dans des l'AQU, MUFON et tout, tu es habitué un petit peu à répondre là-dessus. Là.
Non, mais à réagir à ça parce que tu vois que c'est un contrôle social. Mm-hmm. Tellement, parce que lui, là, il commence à me raconter une histoire d'observation qu'il avait faite quand il était jeune, imagine-toi.
Ouais.
Le gars qui a de l'air d'un gars qui a des préjugés là-dessus, qui dit que c'est la gang de fous là. Mm-hmm. Il a fait une grosse observation quand il était jeune, il restait dans le bas du fleuve, dans le coin de Rimouski, je sais pas trop.
Ouais.
Il jouait au hockey dehors, tu sais, comme on faisait quand on était jeune dans la rue, là.
Mm-hmm.
Oui, dans le temps qu'on sortait dehors.
Ouais, c'est ça. Puis là, il dit, il a vu la secoupe arriver au-dessus de la rue.
Assez basse? Autres,
il était ticu, ouais, à hauteur de la, du top des maisons.
Hey boy! Ouais.
Puis là, eux autres, ils ont parti en courant, chacun chez eux, ils ont eu peur, je sais pas.
Mm.
Puis là, il m'en a parlé cette fois-là, tu sais. J'ai démontré une ouverture. Sinon, elle ridiculisait ça. Puis imagine-toi, il sait que ça existe, il l'a vu.
Mais oui, on dirait qu'ils veulent pas, ils veulent pas l'admettre.
Non, c'est ça.
Mais vu
ça,
que
c'est le conditionnement social, c'est fort.
Oui. La peur du jugement, la peur de savoir c'est qu'est-ce que je vais paraître si je.
Ça, c'est la CIA et les opérations psychologiques qui ont été en charge de justement de travailler là-dessus. Mm. Eux autres, c'est des spécialistes de la manipulation de masse. Comprend comment ça fonctionne la population en groupe, en tant qu'être humain, tu sais.
En utilisant, entre autres, le projet Blue Book.
Ben, Blue Book, c'était comme pour donner un break à l'armée de l'air, que là, ils recevaient tout le temps des rapports d'observation.
OK.
Puis Blue Book, dans le fond, ça a fini en queue de poisson avec le projet Colorado, parce que là, l'armée de l'air ont voulu se débarrasser de ça. Il était tanné de se faire achaler avec ça.
Mm-hmm.
Parce qu'il fallait tout le temps qu'ils mentent à la population, tout le temps. Puis dans les années 50, les gens étaient peut-être moins menteurs, je ne sais pas. Les gens n'aimaient pas ça mentir, surtout les militaires. Ils venaient de passer à travers la Deuxième Guerre mondiale. C'était des héros, eux autres. Là. Les gens commençaient à voir que là, l'armée de l'air, ils bourraient un peu. T'sais. Ils racontaient n'importe quoi. Les gens... Parce que quand ils faisaient des press releases, c'était tout le temps pour discréditer ou pour diminuer l'intérêt du phénomène.
Mm.
Puis il y avait tellement de monde qu'elle n'avait vu dans ces années-là que ça marchait pas. Mm. Comme je disais tantôt, c'était les extraterrestres pacifiques qui prenaient contact avec la population pour passer un message différent.
Mm-hmm.
De paix, etc. Pour dire, hey, il y a d'autres choses qui existent que ce que vous vivez présentement. Mm.
Est-ce que tu as une idée à quoi ressemblaient ces êtres?
Mais ça a l'air qu'ils nous ressemblaient comme deux gouttes d'eau.
OK.
C'était des humains.
Fait qu'eux autres étaient pacifiques. Mais c'est des êtres, je pense, qui vivent plus longtemps que nous. Hein?
Bien ça, la longévité, c'est dans l'ADN, tu sais.
Mm-hmm.
Ça, dans mon premier livre, j'en parle un peu. Mais si tu veux qu'on en parle... J'ai combien de temps?
Ah, ben, on a encore pas mal de temps, là. On est,
ah oui,
on est, au troisième 24 minutes, là, 24-25 minutes. Puis, on en a un autre après aussi, quand on va aborder un autre sujet avec toi là-dessus. Fait que tu as du temps encore en masse. Ah oui. Vas-y.
C'est sûr que 24 minutes, ça serait bon.
Oui.
Pour développer le sujet, ben oui.
Ben, continue. Continue, on est juste à 16 minutes, là. On a encore du temps.
Ça, finalement, dans mon premier livre, L'aide du chaos, j'ai fait une étude comparée des mythes. Ben, je cherchais à connaître beaucoup de choses sur les origines de l'humanité.
Mm-hmm.
Fait que j'ai étudié les textes sumériens, mayas, égyptiens, hindous, etc. Ça m'a pris 10 ans à écrire ce livre-là.
Ouais.
Puis à un moment donné, dans ces histoires-là, des anciennes mythologies, ils parlent, tu sais, des humains qui vivaient 1000 ans, etc.
Oui. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour raccourcir notre vie, là, finalement?
Mais je pense que
c'est dans l'ADN.
Ils nous ont manipulé.
C'est une programmation génétique.
Oui.
Puis ça, les généticiens, c'est ça, à un moment donné, j'ai mis des extraits d'articles qu'à un moment donné, les généticiens ont dit « Ben oui, le vieillissement, c'est dans une programmation génétique, c'est dans l'ADN.
Ouais. »
Imagine-toi, parce que dans la Bible, etc., à un moment donné,
mm-hmm.
quand tu as le déluge, puis tout ça, puis Noé. Ça, toute la Genèse biblique, ça vient des textes sumériens. Quand tu regardes chaque histoire, Adam et Ève, puis le déluge, tu retrouves tout ça, ces textes-là, dans les textes sumériens. Sauf que dans les textes sumériens, c'est des dieux qui font les choses, pas rien qu'un dieu. C'est plusieurs dieux. Puis là, après le déluge, il dit, là, tu sais, t'as Noé qui est supposé être survivant. Puis là, t'as un autre dieu qui arrive. Oups, excusez.
On a perdu une oreillette.
Ouais. Fait que t'as un dieu qui arrive puis qui voit Noé qui est pas mort à cause du déluge. Puis là, les deux dieux, ils se parlent, c'est deux frères, Nkienli. Il dit, comment ça que tu l'as sauvé? Il dit, ouais, mais lui, il est bon. Il dit, ouais, mais il faudra pas qu'il vive plus que 120 ans les prochains humains. Il dit ça carrément, tu le vois dans Genèse biblique.
OK.
Ouais. Il dit, c'est bon, mais la prochaine gang d'humains, il faudra pas qu'il vive plus que 120 ans.
Mais pourquoi? Quelle raison? Parce qu'on devient trop connaissant, justement.
Ouais, c'est ça. Après un certain temps, l'expérience, là, t'es plus difficile à contrôler. Mm-hmm. Pas parce... juste ça. C'est à cause de la quantité de gens.
Ouais.
La population.
On grandirait trop vite.
C'est plus dur à contrôler. Ouais. Tu sais, t'as l'histoire de la tour de Babel aussi.
Oui, oui, oui.
Mais la tour de Babel, des textes sumériens, la tour, c'est Shem. Puis Shem, c'est comme une tour qui va jusqu'au ciel, mais dans la traduction littérale, on peut penser que c'est peut-être un vaisseau pour aller dans le ciel, tu sais.
Mm-hmm.
Parce qu'il disait que dans ce temps-là, les humains s'étaient tous mis ensemble, ils parlaient toute une seule et même langue, puis ils se comprenaient. Puis ils ont été capables de construire ça. Puis les dieux sont descendus du ciel, puis ils n'ont pas aimé ça. Puis ils ont séparé les humains, puis ils ont séparé leur langue, qui disait.
Après
le déluge, quand ils ont réimplanté la civilisation humaine, ils ont implanté des endroits séparés, dans des enclaves.
Mm-hmm.
Mettons, quand tu prends l'Égypte, est enclavée par la mer d'un côté, par le désert de l'autre. Tu sais, quand tu prends d'autres civilisations précolombiennes, c'est enclavé par la jungle.
Oui.
Les civilisations sumériennes aussi étaient sur un fleuve, l'Euphrate.
Mm-hmm.
Fait qu'on dans la tradition hindoue, eux autres, ils disaient que c'est des cycles, c'est des âges. C'est comme là, on est dans le Kali Yuga, qui est l'âge de fer ou l'âge des ténèbres, où ce que règne le mensonge, la tromperie, puis ce que les humains, d'un point de vue intelligent, sont pas trop là.
Oui. Ben, on le voit.
C'est pour ça qu'ils ont mis toutes leurs connaissances par écrit. Ils appellent ça les Védas hindous. Et on dit, il va falloir mettre ça par écrit parce qu'à un moment donné, là, parce qu'avant, les traditions, c'était de bouche à oreille, de initié à disciple. Ils savaient tout ça par cœur, eux autres.
Ouais.
Mais c'était sous forme de chant. Puis ils se transmettaient ça oralement. Puis on dit, il va falloir mettre ça par écrit parce qu'à un moment donné, on s'en rappellera plus à cause qu'on s'en va dans le Kali Yuga. Tu sais, quand on pense que l'invention de l'écriture, c'est une évolution, mais ça a l'air que pour certains, non. L'apparition de l'écriture, c'est plutôt une preuve que l'homme commençait
à dépérir.
À dégrader.
Ouais.
Puis dans les textes hindous, ça dit que quand ils ont créé les premiers humains, qu'eux autres, ils voyaient loin, ils comprenaient tout, ils savaient tout. Puis les dieux n'ont pas aimé ça. Puis là, il y en a un qui a dit, pourquoi ne pas leur embuer la vue afin qu'ils ne voient qu'autour d'eux, pour qu'ils puissent observer nous, les dieux, qu'ils venaient de loin. Puis dans les textes Maya, c'est dit littéralement comme ça, le Popol Vuh, la Bible des Maya Kiché.
Le Popol Vuh, ouais.
Moi, c'est ça.
Ouais.
Fait que ça veut dire que génétiquement, ils ont fait de quoi? Mais c'était pas pour nous améliorer comme qu'il y a des guéris là-dessus, comme Sitchin. C'était plutôt pour nous garder.
Esclaves.
Bon. Ouais.
Mm-hmm.
Le vieillissement, c'est la même chose. Selon les âges, dans la tradition hindoue, ça disait que les dans le Kali Yuga, l'être humain vit 100 ans. Puis après ça, dans l'autre âge, c'est 1000 ans, 10 000 ans, puis 100 000 ans. Dans l'âge d'or, là, c'est l'âge qui suit après celui-là.
Mm-hmm.
On va tomber dans l'âge d'or, puis là, on va vivre 100 000 ans sans de l'air. C'est long, tabarouette. Fait que...
C'est mieux d'être là.
C'est long, longtemps. C'est l'éternité, surtout. Et puis c'est long, surtout c'est vers la fin. C'est mieux
d'avoir une certaine évolution spirituelle avant.
Oui.
Parce que si t'es 100 000 ans à faire des conneries, ça va pas bien. Là, 100 ans, ça passe pas pire, tu sais.
Oui.
Il y en a quelques-uns qui s'assagit en vieillissant.
Oui, c'est ça. Ça a tout rapport avec le karma aussi. Parce qu'après ça, imagine-toi, tu sais, on vit même pas 100 ans, puis on a des karmas que ça remonte à des vies et des vies en arrière. Imagine-toi si tu vis 100 000 ans, puis tu fais 100 000 ans de karma, tabarouette, ça va t'en prendre des vies pour attraper ça.
Oui.
Ouais, ouais. Fait que dans le fond, si c'est comme ça que ça se passe, qu'on vit moins longtemps, c'est autant aussi longtemps que la conscience humaine n'est pas plus évoluée, parce que sinon, ça ne marchera pas.
Alors, exactement.
Alors, on revient après la pause, on continue sur ce sujet. Revenez-nous tout de suite après. On est toujours avec Marc Saint-Germain. Alors, tout de suite après les annonces, on revient avec le sujet.
CJMD, c'est la station.
La seule station hip-hop au Québec.
Laurent et les truands.
Chedrette, là, il tombait dans sa main profonde tout de suite, puis... Il y avait souvent des épisodes de somnambulisme, OK? Mais ses parents l'avaient souvent pogné à se lever dans la nuit et à pisser n'importe quoi. Fait que lui, il s'est levé, man, puis la seule porte qu'il y avait d'accessible, c'était la chambre de ses parents. Il est resté à côté du lit à son père, à son père. Il est allé du bord de son père, man, puis il a pissé dans la face à son père.
Oh, c'est débile, là.
C'est débile mental, mon gars!
Ne manquez pas Laurent Littruand, du lundi au jeudi, dès midi.
Corrupt in the building, CJMD 96.9 FM, Dogtown in the building, check this out.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Alors, nous sommes de retour, toujours avec Marc Saint-Germain, où l'on parlait justement des anciennes civilisations terrestres, humaines, où on vivait quand même très longtemps, et puis on nous a vraiment raccourci la vie avec des manipulations génétiques qui s'est faites à cette époque-là, parce qu'il y avait des êtres encore plus avancés que les humains qui aimaient pas où on était rendu. Et qu'on connaissait un petit peu trop, si on peut dire, on était pas mal semblables à eux, donc ils commençaient à trouver que c'était un petit peu trop pour eux là. Ils supportaient pas qu'on soit capable d'être à leur égal, si on peut dire. Alors, Marc, justement, ces êtres-là qui nous ont réduits à ce qu'on est aujourd'hui, à la vie qu'on mène aujourd'hui. Est-ce que, justement, ces êtres-là sont encore alentour et puis que, justement, ils sont en train de faire quelque chose pour manipuler l'ADN des humains?
Plus que jamais.
Plus que jamais, hein?
Parce que, comme on dit, la nature reprend ses droits.
Mm-hmm.
Puis dans notre ADN, à la base, il y a des gènes de l'humanité primordiale. C'est eux autres qui étaient très, très connectés avec toute la création, puis qui étaient vraiment sages.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est parce que quand tu reconnectes avec ça, tu n'as plus besoin de technologie ou presque. Parce que là, tu développes toutes sortes de notions, toutes sortes de choses que tu avais avant que tu n'as pas présentement, comme la télépathie.
Oui. Télépathie, télékinésie, tout
puis
ce
la
que...
La conscience d'unité que tu fais un avec tout.
Mm-hmm.
Fait qu'en faisant ça, tu peux plus détruire ton environnement parce que tu es connecté avec directement.
Ouais, sans quoi tu te détruis toi-même.
C'est ça.
Mm.
Puis ça, aussi, la capacité de, dématérialiser puis te rematérialiser n'importe où dans l'univers, instantanément, à la vitesse de la pensée. C'était des choses qui pouvaient être faites, ça aussi, qui fait partie du bagage génétique humain de l'humanité primordiale qui est dans chaque être humain. Puis ça, éventuellement, c'est ça, ça reconnecte. Ça, il y en a qui n'aiment pas ça parce que ça leur fait perdre le pouvoir qu'ils ont sur les gens. C'est sûr que je vais loin un peu, mais qu'est-ce que tu veux?
Non, c'est, moi, non, je trouve c'est... ça très, très à point parce qu'en réalité, là, ça nous amène à savoir qu'il va falloir qu'on retrouve notre souveraineté puis qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Là. Ce qui se passe présentement, c'est très important. Là.
C'est dans chaque personne,
ouais.
Dans chaque être humain présentement.
C'est le travail à faire qu'on a à faire là, pour qu'on se reconnecte.
C'est juste de recentrer, comme je disais tantôt, de se recentrer, trouver la paix, le calme.
Oui, il faut être attentif à tout ce qui se passe en réalité pour dire, OK, ça, c'est pas pour moi. C'est en dehors de moi, puis là, on va prendre les moyens pour rester centré.
Il faut mettre des limites claires sur qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on ne veut pas.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on accepte en tant qu'individu.
Ouais.
Ou en tant que population, ou en tant que civilisation.
Mm-hmm.
Puis ça, on a commencé à voir ça en 2019, je te dirais. À un moment donné, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Ben, je voulais comprendre pourquoi ça se passait. Puis partout dans le monde, il y avait des révoltes. Les gens, il y en avait assez de la corruption des gouvernements.
Mm.
Tu vois ça en Chine, puis même en Amérique du Sud. Le monde y mettait le gouvernement dehors. Tu as fini de nous avoir, toi, là.
Oui.
Puis c'est à l'échelle planétaire. Puis il y en a qui n'ont pas aimé ça. Hein, des humains qui veulent reprendre le contrat sur leur vie. Qu'est-ce que c'est ça?
Mm-hmm.
J'espère que ça ne ressonne pas trop complotiste.
Ah, ben écoute, à quelque part, on s'éduque. Puis le but premier, c'est que nous soyons autonomes, qu'on soit souverain, que l'humanité retrouve sa souveraineté. Parce qu'en réalité, on est sous la domination là, à l'heure actuelle. C'est ce que je comprends.
Sous contrôle, ben oui. Quand tu regardes tous les systèmes en place, mettons le système économique, tout est fait dans un pouvoir de contrôle global. Tu sais, quand tu regardes, mettons, au niveau de l'alimentation, tu contrôles l'alimentation, tu contrôles pas mal les mondes, je pense.
Oui.
Tu sais, on a besoin de se nourrir quand même à quelque part.
Voilà. Puis là, on le voit ce qui se passe. Bon, on réduit les ouais, mais on veut réduire aussi les produits qu'on met dans l'agriculture pour aider à l'agriculture. C'est-à-dire tout ce que c'est qui les fertilisants.
Les engrais.
Les engrais. Mmh. Les produits chimiques qu'on met pour tuer les animaux, ça, par exemple, ça sera pas mauvais d'arrêter ça, mais on n'a plus la culture qu'on avait d'origine. Fait qu'elles sont moins résistantes si on leur met pas des insecticides ou des choses comme ça, mais il faut redonner la vie à la terre parce que là, on commence à avoir une épaisseur de terre qui est complètement aride. On est comme dans le désert, si on peut dire, là, mais sur terre, là, tu sais, on a des terres, les tracteurs ou les outils qu'on se sert pour revirer ça le plus loin possible en dessous, parce que là, c'est pas vivant ce qui est au-dessus, parce que ça a été pollué par tous les insecticides, les herbicides qu'ils ont mis. Donc, faut vraiment retrouver nos terres telles qu'elles étaient. Là. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire lentement, mais là, on dirait qu'on veut nous imposer ça rapidement. Là.
C'est pas compliqué tant que ça, dans le fond. L'important, c'est d'y aller tranquillement, comme tu dis.
Ouais.
Mais tu sais, comme je disais, les systèmes sont faits pour qu'on soit dépendant, comme là, on est dépendant des épiceries. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui ont des jardins.
Oui, on a perdu ça.
Parce que c'est tellement peu cher, les aliments à l'épicerie, mettons, les fruits, les légumes, c'est pas tellement cher, ben, du moins jusqu'à présent.
Oui, mais là, c'est en train de changer.
Que ça vaut pas la peine de faire pousser tes choses parce que c'est pas assez cher.
Mm-hmm.
Moi, j'essaie de déjà élever des sangliers.
Ça doit pas être simple.
Non, mais c'était le fond quand même. Quand tu regardes le prix du porc ou de la viande en général dans ce temps-là, versus qu'est-ce que ça me coûtait pour élever des sangliers. Mmh.
Mais il faut être de plus en plus autonome, en fait. C'est ça qu'il faut essayer d'être.
Oui, ça c'est certain. Il faut arrêter de dépendre de ce système-là qui a été mis en place juste pour contrôler. That's it. Mm. Fait que tu as une civilisation qui est dépendante d'un système financier et alimentaire. Dans ce temps-là, ça fait un système qui est facile à contrôler. Mm. Puis quand tu regardes comment c'est fait, des fois tu ne comprends pas tout. Tu commences, comment ça que c'est fait demain? Puis là, tu finis par comprendre, OK, c'est fait pour que tu sois dépendant du système. Puis maintenant, on devient dépendant des technologies. C'est la même chose.
On le voit bien, là, au fur et à mesure, on le voit.
Mais éventuellement,
bien.
L'idée, c'est d'essayer de plus possible d'être le plus indépendant de tout ça, de couper les dépendances avec ces systèmes-là.
Mm-hmm. Mm. C'est difficile dans un sens, parce que là, on est dépendant de la technologie. Hein?
C'est ça.
Pour communiquer.
Il ne faut pas virer fou non plus.
Ouais.
Il faut y aller comme on peut.
Oui, comme on est capable de faire. Des petits gestes à la fois.
Oui.
C'est sûr que c'est facile à dire quand tu es chez vous, chauffé à l'électricité et tout ça.
Ça commence par une serre. Mon père, lui, il a fait une serre.
C'est
ça. Il essaie qu'il y a ça 4 saisons. Là, et il essaie des trucs parce que jamais il a pris ça. Là, il fait tout ça. Puis c'est ça. Il chauffe au bois dans sa serre. Il essaie de trouver des solutions. C'est ça qu'il faut faire.
Puis une autre chose qu'il faut réapprendre à faire, c'est l'entraide.
L'entraide.
Tout ce qui nous rend plus humains, c'est vers là vont aller, qu'il faut aller.
Fait que l'ufologie t'a apporté beaucoup parce que là, on arrive avec quand même de la spiritualité dans ce que c'est qu'on parle. Mais toi, tu vois comment l'avenir de l'homme?
Moi, je vois ça très positif.
Oui.
J'ai vu des signes ici et là qui montrent que le futur qui s'en vient va être plus que positif.
Mm-hmm.
Que ça vaut la peine de rester ici.
Mais comment vivre, comment faire face à tout ce qui nous agresse là, présentement? Il y a des choses qui nous agressent. Comment tu vois ça, toi? Dans les signes que tu as vus, c'est quoi que tu vois là, finalement?
Ben, l'éveil des gens qui s'ouvrent à des choses qu'avant, ils n'avaient même pas pensé que ça se pouvait.
Oui.
Les gens sont de plus en plus ouverts. C'est plus difficile de les manipuler qu'avant. Même si ça paraît pas, tu sais, mais ce qui se passe présentement, tout ça est positif parce que ça réveille les gens. Ils n'ont pas le choix de se réveiller. Puis plus ça va aller, plus il va y avoir des choses qui vont les réveiller de plus en plus.
Mm-hmm.
Puis même s'ils ne veulent pas se réveiller, à un moment donné, ça va fesser tellement fort qu'ils vont dire, OK, c'est beau, j'ai compris.
Ouais. Mais l'homme, des fois, il faut qu'il se passe, qu'il faut rencontrer un mur pour avant de comprendre là, que.
Ouais.
Mais on voit que la révolution va se faire, mais de la base. Tu sais, c'est pas une révolution comme on a déjà vu, là, mais c'est une révolution tranquille, si on peut dire comme ça, où là, les gens se prennent en main puis commencent à arrêter de se fier à l'extérieur pour pouvoir vivre. Ils vont se fier vraiment à eux, là. Tu sais, c'est. Ça va être ça de plus en plus. J'ai l'impression.
Il y a une chose à comprendre dans tout ça, c'est qu'on crée notre réalité par la pensée.
Mm-hmm.
Autant individuellement que collectivement. Imagine aussi tout le monde focusait sur des choses positives à l'échelle planétaire. C'est ça qui va se produire. Parce que nous, l'humain, on a cette capacité. On est des humains créateurs. C'est pour ça qu'il y a des entités qui ont besoin de nous autres pour créer une réalité.
Autre.
Pour eux autres.
Mm-hmm.
Fait qu'ils sont dépendants de nous autres, plus qu'on est dépendants d'eux autres. Nous autres, on est dépendants d'un système, puis ça, c'est pas important, parce qu'on peut vivre en dehors de ce système-là, malgré tout.
Mm-hmm.
C'est certain que tout est fait en ce moment pour éviter que les humains soient indépendants, aillent vers l'indépendance. On n'aime pas ça. Parce que c'est ça qui s'en vient à long terme, à plus ou moins long terme. Les gens vont se réveiller, puis quand ils vont prendre conscience. Quand ils vont prendre conscience qu'ils ont un contrôle sur leur environnement, juste par la pensée, ils vont générer des pensées vers ce qu'ils veulent. Parce que dans les textes aussi, ce que ça dit, c'est que l'âge à venir, c'est l'âge d'or. L'âge d'or, crée-moi, c'est pas l'âge d'or quand t'as 65 ans.
Oui.
C'est un âge où ce que va régner l'harmonie puis l'abondance pour tout le monde. L'amour fraternel. ça te dérange pas, je vais faire un petit peu d'astrologie, je vais t'expliquer ça en termes simples.
Oui.
C'est quand il parle de l'ère des poissons puis l'ère du Verseau.
Mm-hmm.
On est à cheval entre ces deux ères-là présentement. C'est pour ça qu'à la fin d'une heure, ça brasse en chien. Mm. Mais c'est des heures qui durent 2165 ans. Puis là, on est comme en transition entre les deux heures. Puis l'heure des poissons, c'est l'heure du chaos.
Pour ça qu'on était dans le Caligula.
Ouais. L'heure des mensonges. C'est pour ça que... Puis l'heure de l'illusion. C'est pour ça que toutes ces énergies-là sont décuplées parce qu'on est sur la fin d'une heure. Puis là, ces énergies-là sont... Ils deviennent plus présents. En même temps que l'énergie de l'autre ère aussi va commencer à sortir. L'énergie du Verseau, c'est la fraternité universelle, les technologies, puis les révélations, tout ça, ça fait partie de cette énergie-là. Ça va être amplifié.
Mm-hmm.
Puis ce qu'on a vécu dernièrement, c'est Pluton en Capricorne. Parce que Pluton, il appelle ça la pépine du zodiaque. Elle vient toute sortir, puis elle te met ça sur un tas à la table. Puis deal avec ça maintenant. Elle va chercher les choses. Comme le Capricorne, c'est toutes les structures, les figures d'autorité, puis tout ça. Avec Pluton là-dedans, ça rentre en 2008. Puis ça va sortir, je pense, à la fin de 2028 ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps-là, puis quand Pluton, il est comme sur la fin ou au début d'un signe, comme présentement, là, sa fin est à la veille de sortir du Capricorne. Puis après ça, il va aller dans le Verseau. Il va se faire un méchant remue-ménage. Fait que c'est, dans ce temps-là, tu vois le meilleur comme le pire qui sort.
Mm-hmm.
Tu sais, les ponts, à un moment donné, commençaient à tomber. Pluton en Capricorne, destruction des structures. Mais quand tu détruis des structures, c'est pour reconstruire par après.
Ouais.
Les structures qui sont mises en place présentement, c'est des structures de contrôle. Fait que c'est pour ça, chez beaucoup de politiciens, on voit le pire des fois. Puis ils n'ont même pas connaissance que les gens voient à travers leur jeu de manipulation, puis d'influence, puis tout ça.
Non, mais ils savent quand même que plus de gens ne voient pas que d'autres. Ça fait que, mais tranquillement, les gens s'aperçoivent de plus en plus qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, ça va jouer contre eux, là, finalement.
C'est de plus en plus évident.
Oui. Mm. Puis tantôt, ça va être un choc, comme on dit, pour les gens qui n'ont pas vu jusqu'à maintenant, qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant. Ça va être un choc pour eux. Ça fait que tranquillement, on va avoir besoin de gens plus solides qui ont pu voir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Puis
c'est certain que l'ufologie, ça donne une petite longueur d'avance sur les autres parce que toi, déjà, tu le sais que les médias sont contrôlés.
Mm-hmm.
Quand tu fais de l'ufologie, tu t'aperçois de ça, tu dis raconte n'importe quoi, tu dis voyons donc.
Ouais.
Tu vois qu'il y a un narratif qui est contrôlé. Puis que quand il y a quelque chose qui sort dans les médias, c'est parce qu'il y a un but derrière ça. Puis le but, c'est pas d'informer, c'est de t'amener vers une direction bien choisie.
Oui, comme on voit présentement, là, ils changent un narratif pour un autre, pour justement continuer la manipulation vers un autre chemin. Là. Mm. Puis en même temps, on voit de la destruction aussi de nos écoles, de nos vies, de nos du travail, ainsi
des structures qu'on n'a pas besoin.
Oui.
Mais il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent, tu sais, je trouve, oui. Là, de plus en plus. C'est autant les jeunes, là. Moi, j'ai beaucoup de jeunes à la maison, là, puis c'est ça. Ça commence à... Ça veut plus rentrer dans le...
Dans le moule.
Dans le moule, c'est ça. c'est plus pareil, là. Tu sais, je regarde là, les jeunes d'aujourd'hui, puis ben, y en a d'autres, là, que oui, ils vont rentrer dans le moule, là. Il y en a toujours qui sont... Ils ne sont pas conscients, ça dépend des parents, là, mais comme plus que des parents qui s'éveillent, plus que des enfants qui s'éveillent, fait que ça, c'est une bonne chose.
Alors, on voit justement que de plus en plus, Marc, tu reviens à ce que tu étais avant, là, parce que peut-être que les gens ne savent pas, peut-être que tu pourrais parler un petit peu de ce qui t'est arrivé et pourquoi tu es dans une certaine condition présentement. Est-ce que tu peux parler...
mon accident?
Oui.
OK.
Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Comment ça s'est produit? Puis, tu as vraiment sorti de quelque chose qui est presque miraculeux, là, si on peut dire.
Ben, c'est sûr qu'avant ça, quand tu entends parler des anges gardiens, tu restes un petit peu sceptique, mais là, j'y crois.
Oui.
Oui, parce que c'était pas mal élevé.
Comment c'est arrivé, cet accident?
Mais finalement, c'est un face-à-face, mais là, la voiture, là, elle a atterri dans un champ sur le bord du fossé. Mais c'était des hautes herbes sèches, tu sais, au mois de mai.
Mm-hmm.
C'est sec au bout.
Oui.
Le feu a pris. Parce que la ligne à gaz, elle avait probablement pété sous l'impact.
De l'auto, hein?
Puis là, c'est pas long que, tu sais, le feu dans la broussaille, plus l'essence, et mon Dieu, ça a pris vite. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai été capable de sortir de la voiture. Et je boitais un peu parce que j'avais une vertèbre de fracturée quand même.
Mm-hmm.
Puis avec l'impact, ça avait fessé un chien.
Oui.
Là, quand j'ai vu que le feu était pris, puis là, j'ai dit, faut que ma blonde sorte de là. Elle avait plusieurs fractures. Donc, mon réflexe, j'ai tiré tout le temps du monde. Il y avait des curieux. Là, je suis allé en pognant. J'ai dit, toi, viens m'aider, on va sortir ma blonde. Puis là, la porte était pliée sur son côté à cause de l'impact. Il a fallu passer par en arrière de la voiture.
Hey.
Puis elle l'a sorti sans main en temps.
Mm-hmm.
Puis en même temps, moi, à cause de la ceinture de sécurité, j'ai eu une dissection de la carotide. Ouf. Fait que j'avais plus pas trop de sang qui montait au cerveau, moins que d'habitude. Tellement que ça a fait un caillou. Puis le lendemain, j'ai fait un AVC. Ça, j'en ai arraché un peu.
Oui.
Mais c'est certain que le neurologue, il trouvait que quand j'ai compté, quand j'ai sorti de la voiture, puis après ça, j'ai été chercher quelqu'un. Il y avait de la misère à créer ça. Ben, je dis, écoute, je te compte pas de mentir. C'est ça qui s'est arrivé quand même.
Mm-hmm.
Puis ma blonde est là pour témoigner de ça. T'as envie.
Oui. Puis justement, toi, la question de l'ange gardien, avais-tu vu quelque chose en rapport avec ça?
Cinq minutes avant l'accident, j'avais comme vu. Tu sais, on s'en va en voiture. Là, j'avais visualisé l'accident. Mais j'avais vu une voiture blanche qui s'en venait sur nous autres. Sur le coup, j'ai pas trop compris, tu sais.
Puis
quand c'est arrivé, là, j'ai dit, OK, c'est vrai, finalement. On va avoir un accident.
OK, tu l'as vu arriver avant que ça arrive.
Cinq minutes avant la voiture. Là, j'ai comme visualisé ça, la voiture blanche s'en venait sur nous autres. Mais malgré tout, il n'y a pas rien que je pouvais faire pour empêcher ça. À moins de crier à ma blonde, arrête-toi sur le bord, tu sais. Elle m'aurait regardé drôle en maudit.
Oui. Ah, parce que c'était pas toi qui conduisais, là.
Non, c'était Annie qui chaussait. Oui.
Ouais, hein? C'est comme on dit, on a des visions, justement, quand on parlait de capacité humaine. Il y a des choses qui commencent à s'éveiller chez les gens, puis ça montre justement une de ces capacités-là qu'on a, c'est de voir dans l'avenir aussi. Parce qu'on a une partie qui vit l'avenir, puis une autre partie qui vit le passé, puis on est là, nous autres, dans le présent, là, puis on a des flashs d'un côté puis de l'autre, on a des flashs, puis c'est ça qui nous amène, là, justement, à vivre ces choses-là, là, puis...
Ben, le futur, c'est fait de réalité probable.
Oui.
Puis je peux même te raconter un petit quelque chose par rapport à ça, si tu veux.
Oui.
À un moment donné, j'ai fait une couple d'expériences, je dirais spirituelles.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'est des expériences qui sont subjectives, parce que ça se passe dans ta tête, tu sais. Tu n'as pas de preuve empirique de ça. C'est subjectif.
Mm-hmm.
Donc, tu peux dire que c'est l'imagination, tu peux dire n'importe quoi.
Ouais.
Mais quand tu le vis, ça a l'air vrai.
Un exemple de ça?
Ouais. Mais ça, c'est pas quelque chose que je compte d'habitude.
Mais ça aide un petit peu. On est sur zone insolite, ça aide un petit peu aux gens aussi de se faire une autre idée.
J'en ai dit en masse de mes affaires bizarres.
ça peut passer encore.
j'en dis tout le temps, de toute
fait
façon.
Tu peux nous raconter ça.
J'avais rencontré ça à une poignée d'individus seulement.
Oui.
Parce que c'est pas mal flyé dans le sens que c'est comme... Tu sais, comme tu dis, on se projette dans le passé et dans le futur en même temps.
Mm-hmm.
Puis à un moment donné, j'ai fait une expérience, tu sais, ils appellent ça du rebirth, par la respiration.
Mm-hmm.
Puis d'une shot, c'est comme je reculais tout en arrière jusqu'au début, au commencement de tout. Quand l'âme prend son programme de vie de avant toutes tes premières incarnations. Mais j'ai fait l'autre bout aussi.
OK, la fin.
Moi. Puis à un moment donné, j'ai parlé de ça à quelqu'un qui était pas mal dans la spiritualité. Il dit ça, c'est l'alpha et l'oméga.
Mm-hmm.
T'as fait les deux bouts.
Ouais.
Ben l'oméga, hein, c'est pour ça que je suis très positif sur l'avenir. Parce que j'ai vu,
okay,
c'était que notre civilisation avait tout réglé ses problèmes. Puis on y est arrivé, tu sais.
Fait que c'est pour ça que t'es positif.
Ouais. Mais ça, comment j'ai vu ça? J'ai vu ça comme des événements qui se passaient. Je vais donner un exemple. Il y a des gens qui sont en train de défaire des postes frontaliers, tu sais, les frontières.
Oui.
Ils défont ça parce qu'on n'a plus besoin de ça. Il n'y aura plus de frontières. Puis les gens qui faisaient ça, dans ce que je voyais, étaient tellement contents. Moi, je ressentais tout ça. Je ressentais comment les gens étaient contents en même temps. Tu sais, tout ça. L'exaltation.
Oui.
Puis ils faisaient la même chose avec les postes d'essence. Ils n'avaient plus besoin de ça. Pas parce qu'on avait plein de chars électriques. Parce que c'était plus nécessaire, tu sais. Fait qu'on avait tout réglé nos problèmes. Puis on défaisait tout ce qu'on n'avait plus besoin. Puis après ça, ça finit qu'on dit, OK, on est prête à la prochaine étape. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils attendent après nous autres. Les autres aussi, t'as content maudit.
Moi, j'ai bien hâte, en tout cas. J'espère que je vais être là.
Mais c'est pas demain.
Non.
On a un job à faire avant.
Oui.
Tout le monde.
Chacun individuellement.
Ben oui.
Alors, merci beaucoup, Marc, pour ta présence puis pour nous avoir parlé aujourd'hui. La raison pour laquelle on a parlé justement de ton accident, ben c'était vraiment parce que les gens peuvent se rendre compte
parce que je suis encore en vie.
Tu es encore en vie, même s'il y a eu un accident puis que tu as des projets encore qui s'en viennent. Ouais. Alors, ça, c'est très bien. Et puis, ben merci encore. Merci, Pascal. Puis, revenez-nous dans l'année. On va avoir encore d'autres choses à se dire. Alors, bonne année, tout le monde. Et puis...
bonne année.
Bonne année.
Merci, Denis. Merci, Pascal.
Plaisir.
Talk Rock Hip Hop.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.